Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri.
Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. C'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît? Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Savez-vous ce qu'est le tambo-guitare? Un instrument hybride entre la lyre et la guitare électrique qui nous porte vers l'Afrique de l'Est, sur le territoire des Bedja. Il joue pour se faire entendre, pour exister dans un État qui peine à reconnaître ses minorités ethniques. Aujourd'hui, dans des pays en débat, on vous parle du Soudan. Il faut tout de même préciser que nous parlons du Soudan du Nord. La division du territoire s'est officialisée relativement tard, en 2011. La division administrative a participé à l'instabilité alimentaire du pays qui appauvrit la population. Sur les 46 millions d'habitants au Soudan, 6 millions sont à Khartoum, la capitale où tous les pouvoirs sont centralisés. La toute première forme d'indépendance au Soudan se situe en 1956. Elle libère le territoire de la couronne britannique et transforme le pays en une république. Mais les nombreux coups d'État qui suivent anéantissent l'espoir d'un gouvernement démocratique. Omar el-Béchir, un général de l'armée, s'empare du pouvoir en 1989. Il introduit un nouveau code légal islamique. Durant de longues années, Khartoum, capitale du Nord, combat le Sud. Les populations sont arrêtées, torturées, forcées à l'islamisation. Parmi eux, des chrétiens et des animistes, système religieux polythéiste, incompatible avec le principe de l'unicité dans l'islam, majoritaire au Nord, selon Omar el-Béchir. Lorsque le conflit du Darfour éclate en 2003, c'est encore el-Béchir au pouvoir. Les arabophones qui nous écoutent ont sûrement saisi le sens du nom Darfour. Il signifie la terre des fours, plus littéralement la maison des fours. Le bilan humain est catastrophique. Les conflits armés au Darfour font des centaines de milliers de morts et poussent 2 millions de civils à l'exil. Mais en 2011, un référendum est proposé aux populations du Soudan du Sud. Le résultat est unanime, 98% des Sud-Soudanais veulent l'indépendance, c'est agréé. Omar el-Béchir proclame Juba comme capitale, il y a tout à y faire. El-Béchir est éjecté du pouvoir début 2019 après 6 jours de mobilisation populaire. Le nouveau gouvernement, qui a positionné le général al-Burhan à la tête du pays, a transformé le Soudan en une machine militaire antidémocratique et liberticide. Depuis le samedi 15 avril 2023, des combats violents ont éclaté entre les deux généraux rivaux, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dogolo, qui dirigent le pays depuis le coup d'État de 2021, opposant les forces militaires aux paramilitaires. Ces affrontements se sont intensifiés avec des combats de rue, des raids aériens et des menaces par médias interposés. C'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui avec Elliot Braché. Elliot Braché est journaliste indépendant, il est spécialiste du Soudan, où il a vécu pendant plus de 2 ans. Il revient actuellement du Soudan et en exclusivité pour Beurre FM et France Fraternité, nous l'interviewons aujourd'hui. Elliot Braché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes envoyé spécial de RFI au Soudan, dont vous venez de rentrer. Alors, le Soudan, depuis son indépendance, c'est 50 ans de guerre civile, une partition du pays en deux depuis 2011, plus de 2 millions de réfugiés, des centaines de milliers de personnes déplacées. Et, alors, une question simple, pourquoi un tel chaos ?
Eh bien, vous l'avez dit, depuis l'indépendance du Soudan en 1956 du condominium égypto-britannique, le Soudan s'est retrouvé plutôt gouverné par des élites du nord et du centre du pays, le long de la vallée du Nil. Au cours du temps et des différentes dictatures militaires, cette situation a été plutôt inchangée et a généré la création de plusieurs groupes rebelles, au Darfour notamment, mais aussi au sud du pays, qui ont pris les armes contre le pouvoir central. Et à l'arrivée du dictateur Omar al-Bashir en 1989, ces conflits, c'est comme des conflits d'identité entre différentes parties du Soudan, vont aggraver. Le mouvement islamiste avec lequel Omar al-Bashir est arrivé au pouvoir va attiser ces conflits avec un projet d'islamisation, d'arabisation, de la population. Donc à ce moment-là, dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, le régime à Khartoum va envoyer des armées de Moudjahidine se battre contre les rebelles du Soudan du Sud, la rébellion du SPLM. Il va également y avoir cette guerre au Darfour, lancée à partir de 2003, qui va instrumentaliser des conflits tribaux et fonciers au bénéfice du pouvoir central, qui va s'appuyer à la fois sur son armée officielle, mais aussi des milices surnommées Janjaweed, recrutées plutôt parmi les tribus arabes Rizieghat de l'ouest du Soudan, et qui vont s'adonner avec l'armée soudanaise à de nombreuses exactions contre la population civile.
Ça, c'est parfaitement clair, et vous l'expliquez très très bien, mais Omar el-Béchir, qui a symbolisé le pouvoir soudanais pendant 30 ans, a été destitué en 2019. Est-ce que cette destitution a changé quelque chose sur le plan économique, sur le plan des libertés publiques ?
Alors oui, depuis sa chute en 2019, il y a eu un sacré nombre de changements dans la société soudanaise, dans la politique soudanaise, avec une transition politique amorcée qui a donné lieu à une tentative de gouvernement civil et censée donner et aboutir à des élections démocratiques. Toute cette transition politique a été remise en cause d'abord une première fois en octobre 2021, lorsque les deux généraux qui sont aujourd'hui la guerre, Burhan et le général Hemeti, ont réalisé un coup d'État contre ce gouvernement de transition. Mais ce qu'il faut voir, et puis évidemment, cette transition aujourd'hui, elle a pris un coup dur avec le début de ce conflit qui implose, c'est ça, dans le Soudan. Ce qu'il faut voir, c'est que les graines qu'a plantées et les divisions et les conflits qui ont eu lieu pendant ces 30 ans de régime militaire et islamiste dirigé par Omar al-Bashir ont des conséquences aujourd'hui, et notamment si on repart en 2013, c'est bien Omar al-Bashir qui a constitué la milice paramilitaire des forces de soutien rapide, sorte de garde prétorienne de son régime, et qui est aujourd'hui déployée dans les rues du pays pour combattre l'armée régulière. Et donc on peut conclure en disant que c'est les 30 ans de règne d'Omar al-Bashir ont semé les graines des conflits actuels et de la guerre que nous constatons aujourd'hui au Soudan.
Alors, un mot supplémentaire sur les affrontements actuels au Soudan. Est-ce que c'est ce que vous semblez nous dire, un conflit qui se déroule sur une base clanique et un affrontement de deux égaux, de généraux qui ont pris le pouvoir en 2021 et qui ont été contraints de s'allier à ce moment-là, Al-Fatah al-Burhan, qui est le chef d'État numéro 1, et Mohamed Hamdan Dogolo, qui est le numéro 2. C'est ça ?
Alors oui, on peut voir aujourd'hui deux armées qui se combattent. Ce qu'il y a de très original dans ce conflit soudanais et d'assez inédit, c'est que ces deux armées institutionnalisées et très bien entraînées qui ont C'est pas une rébellion contre une armée régulière, ce sont deux armées avec des armements très puissants. L'armée régulière a juste le bénéfice de l'aviation quand les forces de soutien rapide sont plutôt bien entraînées, avec un
C'est
équipement
quoi
neuf et
l'équilibre
mieux
des forces,
rémunéré.
pardon? L'équilibre des forces, combien d'hommes dans chaque armée?
Eh bien, on dit que l'armée régulière dispose de 3 hommes lorsque l'armée des forces de soutien rapide n'en dispose de 1. Donc, on serait sur un ratio de 3-1. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que l'armée régulière soudanaise, si elle a l'avantage des airs avec son aviation, elle possède des troupes qui sont un peu moins bien entraînées, qui ont un armement un peu plus vieillissant comparé aux forces de soutien rapide, qui sont dirigées par un homme qui est l'un des plus riches du Soudan, qui bénéficie de contacts aux Émirats, qui s'est enrichi grâce à la contrebande de l'or, qui aujourd'hui a développé une véritable milice aussi par l'envoi de mercenaires combattre au Yémen aux côtés de la coalition arabe. Ces hommes sont bien entraînés, semblent plus déterminés, mais sur le terrain, le rapport de force
Mais on parle
semble
de
jusqu'à
100 000
présent
hommes.
plutôt stable. Voilà.
On parle de 100 000 hommes.
Exactement. La milice, les forces de soutien rapide sont estimées entre 80 et 120 000 soldats. Les estimations disent que l'armée soudanaise bénéficierait, que l'armée soudanaise compterait sur 3 fois le nombre de soldats que l'armée paramilitaire, mais comme je vous l'expliquais, avec un équipement peut-être plus vieillissant, finalement une aviation qui ne parvient pas à en finir avec ces paramilitaires qui ont opté pour une stratégie de guérilla urbaine dans les grandes villes du pays et qui jusqu'à présent tiennent encore tête à l'armée du général Burhan. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu plus complexe qu'un affrontement entre deux hommes. La tension est montée. Il y a une rivalité croissante entre ces deux hommes depuis plusieurs années, plusieurs mois, notamment autour de cette question centrale de la transition après la chute d'Omar al-Béchir, qui était celle d'intégrer les paramilitaires à l'armée régulière.
Oui.
Le fait est que aujourd'hui, il faut aussi remettre cet affrontement dans un contexte régional. Ces deux généraux ont été soutenus par différents pays de la région. Le général Hemeti plutôt par les Émirats, par exemple. Le général Burhan et l'armée plutôt par l'Égypte. Il faut aussi remettre cet affrontement dans le contexte donc de la chute d'un régime de 30 ans, dans lequel le mouvement islamiste était très influent. Ce mouvement a perdu pied à la chute du dirigeant en 2019 et cherche aujourd'hui aussi par tous les moyens par essayer de revenir sur la scène, et cela passerait par la suppression des forces de soutien rapide et un soutien à
Ouais.
l'armée nationale.
Alors, on comprend bien, et donc dans cette situation, bah, la population civile, et notamment la situation des femmes soudanaises, est terrible.
Bien oui, la population civile soudanaise est aujourd'hui entre deux feux. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2013, il y a eu des premières révoltes contre Omar al-Béchir qui ont été réprimées dans le sang. En 2018-2019, il y a une révolution populaire qui a amené à la chute du tyran et s'est ouverte une période de liberté avec l'abolition d'un certain nombre de lois répressives, l'abolition de la charia qui pesait sur la population et notamment sur les femmes. Malgré tout, depuis le coup d'État de 2021, on a observé un retour en arrière important dans la société, avec le retour d'un certain nombre de cadres islamistes dans les administrations du pays, mais aussi dans le système judiciaire. Donc un vrai retour en arrière pour les femmes. Si elles ont gagné une voix dans ces manifestations à laquelle elles ont massivement participé à partir de 2019, aujourd'hui on se rend compte, et encore plus a fortiori dans cette guerre, que ces généraux et ces militaires qui aujourd'hui se livrent à une bataille à mort ne comptent pas donner une voix aux femmes et qu'elles ont été à nouveau évincées de la scène politique. Mais
Eliott Brachet, merci pour ces explications très claires. Je rappelle que vous étiez l'envoyé spécial de RFI au Soudan il y a encore quelques jours. Merci à vous.
Merci.
Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jessica et à Zora, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu.
C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.